Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. De retour à son horaire habituel, 9h, 11h. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture tient aujourd'hui le festival Wheel of Green qui va avoir lieu mais en digital, mais pas avec des ordinateurs en bois. Et puis Laurent Mariotte qui s'est intéressé à la cuisine du cinéma au sens littéral du terme, exemple Ratatouille. Il y aura évidemment les audiences télé, le journal des médias, le journal de la culture. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie Le goût qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia, c'est la revue 21 qui fête son 50e numéro et vous apprendrez grâce à l'une de leurs enquêtes comment on peut s'acheter une nationalité. Oui, ça s'achète comme une voiture, mais ça coûte plutôt le prix d'une Bugatti. Ensuite, nos invités, il n'y a que des femmes aujourd'hui. La productrice Alexia Laroche-Joubert pour la finale de Koh-Lanta ce soir sur TF1. Ce sera en direct, je le précise, dans des conditions particulières pour cause de Covid-19. Ironie du sort, Alexia Laroche-Joubert a elle-même été atteinte par le virus en mars dernier et placée à l'isolement. Enfin, la romancière Sophie Fontanelle pour les fables de Fontanelle, c'est chez Robert Laffont. C'est comme du La Fontaine, sauf que ça parle de fesses. Il y aura en prime son portrait inattendu en direct par Hélène Manarino. Je crains le pire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Face à vous, Martin Cangelosi, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, Martin. Qu'avez-vous au sommaire ce matin ?
Téléfoot encore, qui cherche à se faire beaucoup d'argent. Le magazine Point de Vue, qui lui n'a pas vraiment d'argent pour fêter son anniversaire. Et le grand retour de Jean-Pierre Pernaut, que vous entendrez en avant-première dans ce journal.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ?
Eh bien, hier soir, les Français ont regardé de la fiction, rien que de la fiction, carton pour TF1, avec Les Bronzés font du ski, un incontournable, 5,8 millions de téléspectateurs, 25% d'audience. Juste ensuite, France 3, avec cette série française Cassandre, 4,5 millions de téléspectateurs, excellent score, 19,1% d'audience. Déception en revanche, troisième du podium pour M6. Et la série américaine This Is Us, 1,5 million de téléspectateurs, 6,1% d'audience.
Culture Média.
En même temps, quand tu es troisième du podium, ça veut dire que tous les autres sont derrière. On commence ce journal des médias à Martin avec Téléfoot, qui continue à faire parler d'elle. Faut dire, c'est la nouvelle chaîne que va lancer Mediapro, chaîne qui va être lancée fin août, et qui demande, Mediapro, aux opérateurs téléphoniques beaucoup, beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Si Orange, Bouygues SFR ou Free souhaitent avoir Téléfoot sur leur box, ils vont devoir tout simplement sortir leur chéquier. Alors tout simplement, c'est quand même 100 millions d'euros très exactement.
Chacun ?
Par opérateur, 100 millions d'euros par opérateur, selon les infos du magazine économique Capital, qui rapporte d'ailleurs que les négociations sont très très compliquées avec Mediapro. Chez les opérateurs, forcément, on regarde cette somme avec des yeux effarés, surtout qu'on préférait faire autrement, rémunérer Téléfoot en fonction du nombre d'abonnés que leur apporte la chaîne. Imaginez Philippe, pour un Orange ou un Bouygues, faire un chèque de 100 millions d'euros en avance et voir à la fin que cela n'attire aucun abonné supplémentaire sur la box, ce serait de la folie, surtout qu'à 25 euros l'abonnement, eh bien les opérateurs ne sont pas encore sûrs que les Français vont sauter le pas.
Autre option technique, est-ce qu'elle est envisageable ou envisagée ? Est-ce que Téléfoot pourrait être diffusé seulement sur Internet avec un site payant ?
Alors chez Mediapro, on dit pourquoi pas forcément, mais on sait quand même que cette stratégie est très risquée car la chaîne perdrait en visibilité. Plus de 3/4 des Français, c'est énorme, c'est une exception en Europe, regardent la télé via leur box à moins de 3 mois du lancement de Téléfoot. Mediapro n'a donc pas le droit à l'erreur parce que Mediapro, on le rappelle, a déjà dépensé beaucoup d'argent dans cette aventure. Le groupe sino-espagnol a déboursé le chiffre record de 780 millions par an pour diffuser le meilleur du foot français, 780 millions pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Il faut aussi ajouter à ça la rémunération à donner à TF1, puisqu'on rappelle que la chaîne de Bouygues va produire une grosse partie des émissions et prêter les consultants Lisa Razou et Margoton. Bref, on estime à au moins 3 millions le nombre d'abonnés que Mediapro doit conquérir pour ne pas aller dans le mur. Quand on sait qu'un match de Ligue 1 sur Canal+ ne monte jamais au-dessus des 2 millions de téléspectateurs, on se dit que Mediapro n'a quand même pas intérêt à se mettre tout de suite les opérateurs à dos.
On savait les interventions d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron très suivies à la télé pendant cette période du Covid. On apprend que ce n'était pas seulement qu'à la télé.
Ce n'était pas qu'à la télé, c'était il y a une semaine, rappelez-vous, cette fois c'était la bonne. Enfin, le Premier ministre annonçait le retour à une vie plus normale. La phrase du Premier ministre est même sur le point de devenir culte.
Le 7 mai dernier, je vous avais donné rendez-vous pour vérifier précisément où nous en serions, pour savoir si oui ou non nous serions en mesure de contenir l'épidémie, eh bien nous y sommes.
Nous y sommes. Et les Français, on vient de l'apprendre, étaient 1 million de visiteurs uniques à suivre le Premier ministre sur Dailymotion en direct. Soit sur Dailymotion directement, soit sur l'un des sites partenaires qui reprend directement le live de la plateforme dans ses articles, comme le HuffPost. Quand on sait qu'à la télé, les Français étaient 9 millions à suivre le Premier ministre pour ce « ça y est, nous y sommes », on se dit que Dailymotion a de quoi être fier.
Et puis en parlant d'audience Internet, on vient de connaître le temps passé par les Français sur Internet, pas à la télé, sur Internet pendant le confinement.
Eh bien sachez que c'est moins que la télé, on vous en parlait en début de semaine. Les Français sont restés scotchés à leur télé durant 4 heures et 40 minutes en avril.
Par jour.
Par jour, ouais. Contre seulement, pourrait-on dire, 3 heures par jour sur Internet. Bon, 3 heures sur Internet, c'est tout de même 46% de plus qu'un an auparavant. 31 millions de Français se sont connectés sur Facebook tous les jours, un record. Et même chose qu'à la télé où les Français ont beaucoup regardé les JT et les chaînes info, et bien sur Internet, vous avez été très nombreux à visiter les sites d'actu, France Info et Le Figaro, Caracol en tête.
Alors, en revanche, un éditeur de presse qui n'a pas vraiment bénéficié du confinement, c'est un euphémisme, c'est le magazine Point de Vue qui célèbre son anniversaire avec la peur au ventre.
Alors, je sais que Point de Vue, c'est le magazine que vous lisez souvent sur la table de votre dentiste ou de votre coiffeur, Philippe. On
Bien
y
sûr.
Suit les frasques et les déboires de ceux qui sont encore sur le trône en Europe depuis 75 ans. Sauf que le magazine Point de Vue, eh bien, est lui aussi victime de la faillite de Prestalis. Vous savez, on vous en parle quasiment chaque semaine sur Europe 1, de la faillite de cette entreprise française chargée de distribuer la presse dans vos kiosques. Écoutez Adélaïde de Clermont-Tonnerre, patron de Point de Vue.
La faillite de Prestalis, c'est une vraie catastrophe pour nous parce que Point de Vue, qui fête cette année ses 75 ans, dépend complètement des ventes en kiosque et dépend complètement des marchands de journaux. Or, Prestalis doit nous restituer l'argent de nos ventes et Prestalis ne nous paye plus depuis des semaines. Donc pour nous, ça veut dire que depuis des semaines, nous sommes asphyxiés financièrement et que ce magazine qui était parfaitement rentable, parfaitement en développement, est en train de vivre des heures extrêmement alarmantes.
Le magazine, la semaine dernière, a littéralement appelé ses lecteurs à le soutenir en s'abonnant massivement. Ce cri du cœur a-t-il été entendu ? Adélaïde de Clermont-Tonnerre, patronne de Point de Vue, dresse pour Europe 1 un premier bilan.
On a reçu des centaines de messages de soutien extrêmement chaleureux, avec des mots très forts en disant « on n'imagine pas un monde sans Point de Vue, vous êtes ma bouffée d'oxygène, vous êtes mon rayon de soleil, je vous lis depuis des années, j'ai envie de continuer à vous lire ». Ça a été quelque chose qui pour l'équipe, pour nous tous, a été vraiment galvanisant, et puis avec des initiatives extrêmement encourageante. Il y a une lectrice qui a ouvert une cagnotte Litchi. Il y en a beaucoup qui ont décidé de nous soutenir en s'abonnant, ce qui est une excellente manière de nous soutenir.
Des remerciements que vous retrouverez cette semaine dans un nouveau numéro qui vaut d'autant plus la peine d'être acheté. Sa une est consacrée cette semaine à un autre roi, un roi du bon mot, Guy Bedos, disparu dimanche dernier et inhumé hier, avec cet hommage de Point de Vue, 1934-2020, à la vie, à l'humour.
Et juste un mot, hier on recevait Franck Hanez, le patron de Sopress, qui a créé un groupement justement pour arriver à sortir de cette crise de Prestalis, avec notamment des magazines comme Picsou Magazine et aussi Point de Vue. Mais un groupement très sérieux. Aux États-Unis, on reste dans la presse, les journalistes du New York Times sont furieux.
« Send in the troops, envoyez-leur à l'armée ». Voilà la tribune de M. Cotton. Alors M. Cotton, c'est le sénateur républicain de l'Arkansas. Eh bien, cette tribune a été publiée par le prestigieux quotidien au moment où l'Amérique s'embrase. 23 lignes seulement, 23 lignes qui ont suffi à consterner la rédaction entière. Parmi les passages chocs, écoutez bien, les émeutiers ont fait plonger nos villes dans l'anarchie. Les élites ont excusé cette orgie de violence en parlant de radicalisme chic. Si bien qu'en quelques heures, les reporters stars du New York Times ont tous posté le même message sur Twitter en signe de protestation. « Publier ceci met les employés noirs du New York Times en danger », disent-ils. Certains sont même allés beaucoup plus loin en accusant leur propre journal de diffuser des fake news, rien que ça, car cela émettrait l'idée que les émeutiers sont de sombres délinquants anarchistes, disent-ils.
Et puis vous nous l'aviez annoncé, il fait son grand retour, Jean-Pierre Pernaut, sur TF1, lundi, après avoir été confiné chez lui.
Et il a hâte, après 12 semaines d'absence, 3 mois d'absence, Jean-Pierre Pernaut se remettait tout juste d'un cancer, un combat qu'il avait révélé publiquement quand le Covid a menacé la France. Par mesure de précaution, Jean-Pierre Pernaut, 70 ans, était resté confiné chez lui. Bon, Jean-Pierre Pernaut continuait certes d'intervenir chaque jour en direct à la fin du 13h pour lancer quelques reportages, mais cette fois-ci, ça y est, il reprend les rênes du journal de A à Z et il sera en plateau toute la semaine. On lui a demandé justement s'il allait, avec son retour à l'antenne, lever le pied sur les reportages traitant du Covid et retrouver un journal habituellement moins anxiogène.
Alors en ce moment, c'est vrai que le virus a l'air de diminuer, de continuer à diminuer. Est-ce qu'il va remonter un jour? J'en sais rien. Notre rôle, c'est de raconter l'actualité, de raconter ce qui se passe. Ça n'est pas de décréter qu'on va changer d'actualité. C'est pas nous qui décrétons l'actualité, c'est la vie qu'on suit. On est toujours au plus proche des gens, 13h, avec toujours en parallèle nos opérations qui sont loin du virus, mais qu'on a maintenu pendant toute cette période, l'opération SOS Village, l'opération Vacances en France qu'on a lancée il y a un mois, l'opération Les coups de cœur pour nos marchés, auxquels on tient énormément.
Pendant le confinement, intervenant en duplex, Jean-Pierre Pernaut s'était énervé, rappelez-vous, contre ces Français qui sortaient un peu trop à son goût et des mesures gouvernementales qu'il jugeait floues. Certains lui avaient reproché avec ce coup de gueule d'être sorti de son rôle encore une fois. Alors cette fois-ci, va-t-il moins éditorialiser son JT? On lui a demandé.
J'éditorialise pas les journaux, ce sont les réactions qui sont parfois excessives quand je dis quelque chose. Vous savez, quand moi, un journaliste, quand je constate quelque chose qui va ou qui ne va pas, je le raconte. Donc ça n'est pas éditorialisé que de dire « ma fleuriste pleure devant sa boutique fermée et juste à côté, il y a un magasin Truffaut avec 300 voitures qui, lui, est ouvert ». C'est pas un éditorial, c'est un travail de journaliste que je fais.
Le présentateur, le seul qui aujourd'hui en France parvient encore à réunir 40% des Français à 13h, une prouesse, est de retour pour 6 semaines. Il part en vacances d'été à la mi-juillet, laissant à nouveau la place à Jacques Legros.
Merci beaucoup Martin Cangelosi, on vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
À suivre l'info média du jour avec notre invitée Léna Mauger, rédactrice en chef de la revue 21 qui sort son 50e numéro. On en parle avec elle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Deux nombres, 21, 50, c'est pas le quintet plus. 21, c'est le nom de la revue. 50, c'est le nombre de numéros de cette revue parue à ce jour. La revue 21, c'est en chiffres romains, c'est XX1, publie aujourd'hui donc son numéro 50. À sa sortie en 2008, le trimestriel avait lancé un format qui a largement été repris depuis, celui du MOOC, c'est la contraction de magazine et de book, c'est un livre-magazine. C'est non seulement un magazine passionnant, pardon de donner mon avis, mais également un bel objet qui est vendu non pas en kiosque, mais en librairie, le prix 16€. Au sommaire de ce numéro 50, une enquête sur l'achat de nationalité, un reportage sur la rue Everlo, ou encore l'histoire d'un maire qui lutte contre les pesticides, mais raconté en BD. Pour en parler, nous sommes avec Léna Mauger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-rédactrice en chef de 21, plutôt avec Marion Quillard également. Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce numéro 50? Quid du confinement?
Alors ce numéro 50, c'est un numéro déconfiné parce que c'est aujourd'hui en librairie. Normalement, il devait sortir mi-avril et donc il a été bouclé avant. En fait, il est parti à l'imprimerie en février. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose que nous, nos enquêtes, c'est des enquêtes, notamment l'enquête de couverture qui a duré 2 ans.
Ouais.
Donc c'est des sujets de fond. Patrick de Saint-Exupéry qui avait créé cette revue dès 21, c'est la vague, c'est pas l'écume. Et donc les sujets dont on va parler aujourd'hui font vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui.
Puisqu'on est ici une émission média et qu'on parle aussi de chiffres, on en parlait tout à l'heure avec Martin sur Point de vue Image du Monde. Comment se porte la revue? Dans quelle mesure le coronavirus a impacté vos ventes, sachant qu'elle est vendue en librairie et, je le rappelle, fermée hélas pendant le confinement?
Alors pour nous, c'était vraiment une période très stressante parce que 2/3 des ventes se font en librairie, toutes les librairies ont fermé. La France a un statut très particulier parce qu'on a beaucoup de libraires et nous on est très soutenus par les librairies indépendantes, donc ça a été stressant pendant le confinement mais aussi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de librairies qui sont menacées. Après, notre chance a été de faire une campagne d'abonnement qui s'est terminée juste avant en fait, le Covid, et donc qui nous a permis d'augmenter le nombre d'abonnés et donc d'assurer une trésorerie en fait, sur l'année.
Combien d'abonnés et combien de tirages? Quel est le tirage, pardon, pas combien?
Alors, le tirage, c'est autour de 25 000.
Ouais.
Et il y a 8 000 abonnés et à peu près 22 000 ventes.
Le sous-titre de la revue, pour qui ne la connaît pas, c'est « Dans l'intimité du siècle ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très jolie formule, mais qu'est-ce qu'elle veut dire?
En fait, 21, c'est vraiment, donc c'est un trimestriel et c'est une revue qui vous embarque à hauteur d'hommes et de femmes. On a des reporters qui partent donc, des semaines, des mois entiers aux côtés de personnes donc, à Hong Kong, à Calais, et on raconte vraiment le monde à hauteur des gens. plonge dans la vie des autres.
Alors, je disais en introduction, votre enquête principale, elle est consacrée à l'achat de nationalité. Le titre, c'est « Acheter votre nationalité préférée ». D'abord, j'ignorais que ça existait. D'abord, première question, qui s'achète une nationalité et pour quelle raison ?
Alors, il faut être très riche pour s'acheter un passeport. Et ce qui est intéressant avec cette sœur, c'est que ça montre que le libéralisme est partout, qu'on peut tout s'acheter et que même la nationalité est une marchandise.
Alors d'abord, qui en achète ?
Il parle de personnes à très nette valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont millionnaires à plus de 30 millions.
Ouais.
On peut acheter des passeports dans une vingtaine de pays. Et ça a été en fait, principalement en fait, des gens d'abord à Hong Kong, ensuite en Amérique du Sud, ensuite en Russie, parce qu'en fait ça leur permettait d'accéder à des territoires sans visa. Donc aujourd'hui, par exemple, les principaux acheteurs en ce moment, ce sont les Chinois.
Ouais. Est-ce que les États visés sont dans la combine ? Par exemple, si on achète un passeport suisse ou français ou américain, est-ce que ça signifie que les États suisses, français ou américains sont au courant de l'entourloupe ? Ou est-ce que ça se fait à leur insu, un petit peu comme les maires qui célèbrent un mariage et qui ne savent pas que ces deux personnes se connaissent à peine, qui ne s'aiment pas et que c'est pour obtenir des papiers ?
Alors, c'est un marché légal, tout à fait transparent. Donc les États sont bien évidemment au courant. Typiquement, dans l'Union européenne, des pays de l'Union européenne vendent leurs passeports. Donc il y a Malte, il y a Chypre, il y a la Hongrie, il y a la Bulgarie. Donc quand la Commission européenne donne son accord pour que vous achetiez un passeport hongrois,
ouais.
Bien évidemment qu'ils sont au courant qu'un Russe qui vient d'acheter un passeport hongrois peut avoir un compte bancaire dans n'importe quel pays d'Europe, voter en Europe,
ouais.
Se déplacer, inscrire ses enfants à l'école. En fait, les gens qui vendent les passeports disent qu'il existe le droit du sol, le droit du sang, mais aussi le droit de l'argent. En gros, c'est comme vous êtes riche, mais vous êtes né au mauvais endroit. Vous êtes un Iranien, vous êtes un Syrien. Vous pouvez voyager dans très peu de pays, en fait, sans visa. Et donc, on vous dit, mais vous êtes riche. Pourquoi vous n'auriez pas le droit en fait, de circuler partout dans le monde ?
Mais bien sûr, alors si vous voulez un passeport bulgare, il vous en coûtera 1 million d'euros. Et le passeport autrichien, ça coûtera 10 millions d'euros. On marque une pause pour se remettre de ces chiffres.
Dans l'infomédia du jour, on parle du 50e numéro de la revue 21. Et on y revient avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la revue 21 qui est à l'honneur ce matin dans Culture Média avec la sortie de son 50e numéro. On en parle avec Léna Mauger, la rédactrice en chef de la revue, Philippe.
Achetez votre nationalité préférée, c'est le titre de une. C'est une enquête comment les plus riches s'offrent un monde sans frontières en pouvant s'acheter des passeports, même des passeports européens, on l'a dit, de 1 million à 10 millions d'euros. Sortir cette une pile au moment de la fermeture des frontières, c'était prévu, non ? Coup de chance ?
On peut dire que c'est un coup de chance. Après, c'est dans l'air du temps. C'est comment, quand les frontières se ferment pour les uns, on déroule le tapis rouge pour les autres.
Le prochain numéro, ça sera quoi ? Est-ce que vous avez encore été prémonitoire ?
C'est sur le travail des femmes. Femmes, travail à corps perdu.
D'accord. Et c'est un peu ce qu'on a vu pendant toute la crise du Covid.
Qui
et
les femmes, en première ligne.
Totalement en première ligne. Alors, ce qui est très intéressant dans la revue, c'est qu'également, vous racontez les coulisses des enquêtes. En l'occurrence, cette enquête d'Aurélie Darbouret et Camille Le Pomelec, c'est un homme, Camille. D'un côté, à Malte, Camille s'est occupée de la partie illicite. De l'autre côté, Aurélie a passé du temps à Genève avec les courtiers en passeport. D'abord, comment vous avez constitué ce binôme ? Comment ils se sont partagés la tâche et l'enquête ?
En fait, on les a réunis à 21. Marion Kier, ma co-rédactrice, connaissait Aurélie Darbouret qui travaille donc sur ce business des passeports de complaisance depuis plus de 2 ans, enfin depuis 2017 en fait.
Ouais.
Et Aurélie, elle s'est vraiment immergée dans le monde de ses courtiers. Elle est allée à Genève dans leur salon, parce qu'ils ont, des salons qui s'appellent les forums par investissement.
Ce qui veut dire qu'il y a des courtiers en passeport, on n'en a pas encore parlé parce qu'on ne pouvait pas tout raconter, mais c'est presque une profession qui existe.
Ah, il y a des courtiers en passeport, il y a l'homme en fait, qu'on appelle le roi du passeport, qui est un avocat suisse qui s'appelle Christian Kaline. Il en a fait vraiment son marché dans le monde entier, des îles de Caraïbes à Malte. Et donc Aurélie, elle s'est vraiment immergée, elle prenait des cartes de visite, elle avait mis son tailleur, et au début elle se demandait comment rentrer en fait dans ce forum, parce que les participants avaient payé 2000 francs suisses pour pouvoir y assister. Finalement, elle a réussi à rentrer. Donc elle était vraiment en immersion, puisque, je l'ai dit, hein, c'est un business qui est tout à fait légal. Et pendant ce temps, en fait, Camille Pomelec, on le connaissait parce qu'il avait déjà publié un récit dans 21 que j'avais trouvé très fort, où il se mettait dans la peau des policiers qui traquent les pédophiles sur Internet.
Ouais.
Et Et un jour, je l'ai au téléphone, il me raconte qu'il travaille en fait sur le côté illicite de ce business de passeport, donc à Malte, où la journaliste Daphne Caruana Galizia a été assassinée parce qu'elle dénonçait la corruption autour de ce marché-là. Et donc on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'associerait pas en fait ces deux plumes pour réaliser cette enquête, ce qui nous permettait vraiment d'en raconter tous les rouages.
Vous disiez par exemple 2000 francs suisses pour assister à une réunion, le temps c'est de l'argent. Comment avez-vous les moyens de faire des enquêtes au long cours, un an, deux ans, sachant que votre journal n'a pas de publicité? C'est quoi votre modèle économique?
Alors là, en l'occurrence, Aurélie, qui travaille là-dessus depuis deux ans, elle avait une bourse de la SCAM, la bourse Brouillon d'un rêve, elle travaillait à un documentaire. Camille, en fait, il en a fait aussi un documentaire télé. Mmh. Donc nous, on finance des enquêtes pendant des semaines, mais on ne vit que de nos lecteurs. Donc plus on a de lecteurs, plus on peut financer des enquêtes pendant des semaines. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas financer pendant deux ans à plein temps un journaliste qui travaille sur le sujet. Mais souvent, en fait, les journalistes font des livres, font des documentaires, font parfois même des films de fiction. Et donc on va comme ça chercher en fait des talents qu'on essaye d'associer.
Il y a également de la photo dans 21 avec de très très beaux clichés sur un papier glacé. Je précise que toute la revue n'est pas en papier glacé, mais à l'endroit du portfolio, c'est absolument magistral. Un récit photo saisissant de Pierre Faure consacré à la France oubliée. On parle de quelle France? La France des Gilets jaunes? La France de la première ligne du Covid? Parce que là encore, c'est presque prémonitoire.
Alors là, ce que je trouve très fort dans ce sujet de Pierre Faure, qui avant était économiste, c'est que c'est un sujet au long cours, dans une France invisible, qui est la France des plus pauvres. Mais la France des plus pauvres, en fait, c'est 14% des Français. Et il est allé partout, dans les campagnes, où on voit des fermes complètement abandonnées, où il rencontre des familles qui disent qu'elles n'ont quasiment pas de quoi nourrir leurs enfants. On va dans des villes du Nord, en périphérie, où il y a des ouvriers qui ne travaillent pas depuis des années. Et en fait, c'est un travail en noir et blanc, très charbonneux, qui a un côté extrêmement intemporel. En fait, on pourrait être après la Grande Dépression dans les années 30.
J'allais le dire, on croit reconnaître certaines photos historiques américaines.
Il y a un côté Dorothy Lange, en fait, après au moment de la Grande Dépression. On pourrait être dans la France d'après-guerre. Mais en même temps, il y a quelque chose. Enfin, en fait, ces images, je trouve, ont valeur de preuve. C'est-à-dire qu'on voit la pauvreté dans les corps, on voit la pauvreté dans les regards. Je trouve que quand on a vu ce portfolio, on ne peut plus dire « je ne sais pas ».
On est d'accord. Vous avez bouclé la revue il y a trois mois, je l'ai dit, c'était avant la crise du coronavirus. Et pourtant, il y avait déjà quelques échos en Asie. Et on peut lire à la fin de votre sujet sur les manifs à Hong Kong qu'il est question de l'incidence du virus sur la continuité du mouvement. Et alors, quand on lit ça avec trois mois de recul, on se dit qu'on aurait peut-être pu anticiper la crise. Ou est-ce que c'est moi qui m'avance?
Alors, je sais pas du tout parce que je suis pas experte en virus. Tout ce que je sais, c'est que on voit que les sujets durs. Que peut-être que le monde s'est figé pendant deux mois, mais le monde n'a pas changé. Ouais. Et en fait, ce qui se passe à Hong Kong, ça dure depuis six mois. Là, on a un journaliste, Jean Carrère, qui s'est immergé avec une bande de quatre copains des manifestants pendant plusieurs semaines, et qui d'abord ont eu la fièvre révolutionnaire, et ensuite qui ont connu la peur. En fait, dans ce récit, ce qu'on sent, c'est la peur de la répression policière. À Hong Kong, il y a quand même un habitant sur trois qui souffre de stress post-traumatique. Et en fait, leur crainte au moment où le virus arrive, donc bien avant nous, c'est de dire, est-ce que les gouvernements, en fait, vont profiter de ça pour nous interdire de manifester, pour durcir encore la répression? Et là, on l'a vu hier, au moment de la célébration du massacre de Tiananmen, les Hongkongais ont défié l'interdiction de manifester. En France, on défie l'interdiction de manifester. Donc on voit qu'il se passe quand même quelque chose, une révolte qui est là à Hong Kong, mais qui est aussi partout dans le monde.
Tout ceci, c'est dans 21. Il y aura évidemment un prochain numéro qui va sortir le 3 juillet, si je suis bien informé. Merci beaucoup, Léna Moger, une des deux rédac-chefs de cette revue 21. Et la seconde, il faut la citer, c'est Marion Quillard. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
en direct,
vous,
déconfiné, sur Europe 1.
Notre prochain invité est Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions. Avec elle, on parlera notamment de la finale de Koh-Lanta, les poteaux. C'est ce soir, on tentera d'en savoir plus dans un instant sur Europe
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on est ravis d'accueillir Alexia Laroche-Joubert.
On est ravis, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Alexia Laroche-Joubert.
Bonjour.
Vous êtes productrice télé, faut-il le dire. On vous doit la première émission sur le confinement avec des gens enfermés à double tour. C'était Love Story, la première télé-réalité en France. On va fêter le 20e anniversaire dans un an. Mais surtout, vous avez pris la tête de la société ALP, c'était en 2016. Donc c'est vous qui produisez désormais les émissions parmi les plus rassembleuses de la télé, Fort Boyard et Koh-Lanta. Koh-Lanta qui en est à sa 26e saison. Le titre de cette saison, Koh-Lanta à l'île des héros. La finale, c'est ce soir sur TF1 et c'est en direct. Et je le précise parce que ce n'était pas gagné avec la crise du coronavirus. D'autant que vous-même, vous avez été atteinte par la maladie.
Oui, alors c'est très simple. Non, mais ça me fait rigoler. Je ne sais pas si ça me fait rigoler. Il s'avère que je l'ai été un peu avant tout le monde. Donc moi, j'ai été confinée 10 jours avant le propre confinement.
C'était quand, vous ?
Je l'ai eu le 3 mars.
D'accord.
Donc, je rigole parce que j'étais complètement à l'isolement et j'ai respecté des gestes barrières à tel point que mes filles ne l'ont pas eu, alors que j'étais isolée chez moi. En revanche, j'ai eu tous les symptômes pendant surtout très longtemps. Ça, il faut le dire, la maladie dure très 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 longtemps. En revanche, pas grave. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont vécu des moments extrêmement douloureux. Et j'ai une jeune femme que j'ai peut-être contaminée d'ailleurs, qui à TF1, qui elle a eu plus de symptômes un peu plus durs. Donc voilà, moi j'ai un peu traversé ça sans trop
c'est-à-dire
de
séquelles. Vous avez séquelles. Toussé, la fièvre, pas d'odorat plutôt.
Ouais, mais beaucoup surtout des courbatures, moi, ouais. très fort.
Mais pas besoin d'aller à l'hôpital.
Non. Mais en revanche, suivi par la salpêtrière, remarquablement bien.
Est-ce que vous avez eu peur ?
Alors, écoutez, je vais pas faire la fierotte. J'ai eu peur la première nuit, donc j'ai pris un Carlexo parce que c'est vrai que quand, en plus, on était vraiment, enfin, j'étais l'une des premières à Paris. On entendait beaucoup de choses. On avait les Italiens qui étaient très alarmistes. Donc oui, et puis après, à un moment, j'ai bien senti quand même que mon corps suivait et que ça allait.
Vous avez contaminé des gens parce que vous êtes en contact avec plein de gens de la télé, d'animateurs, de patrons de chaîne. Je ne demande pas de nom, mais est-ce que vous avez contaminé des gens?
Bah alors l'histoire veut que j'ai fait un strike dans les 2 jours où j'ai été contaminée. J'ai vu la direction de France 2, la direction de TF1, la direction d'RMC. Donc le dimanche j'ai appelé tout le monde. Donc j'ai été diagnostiquée le samedi. Le dimanche j'ai appelé tout le monde en leur disant voilà ce qui m'est arrivé. Ils ont tous été confinés par leur direction. Donc d'une certaine façon aucun de ceux-là ne l'a eu. Donc ça a protéger toutes ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas été en contact d'autres personnes. Inversement, la jeune femme dont je vous parlais, c'est peut-être moi, on n'est pas sûr. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai contaminé un responsable de post-production qui, lui, n'a pas eu de symptômes graves.
Il ne faut jamais dire à quelque chose malheur est bon, mais peut-être est-ce votre expérience qui a fait que les chaînes ont été très très fortement sensibilisées à ce problème, avec des conditions drastiques.
D'un seul coup, ça les a mis dans la réalité de la maladie. Voilà, donc je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, c'est un cas concret.
Donc, Koh-Lanta, Denis Brognard et les candidats seront présents en plateau ce soir à la Plaine Saint-Denis. Ça sera juste après 21h sur TF1. Il y aura le conseil final de Koh-Lanta. Dans quelles conditions sanitaires, quel dispositif ?
Drastique. Vous en parliez juste au début de l'interview. Il s'avère qu'on s'est posé longtemps la question de notre capacité à être en direct pour la finale de Koh-Lanta, qui est un moment quand même crucial, évidemment, puisqu'on va connaître le ou la gagnante. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle TF1 nous a demandé aussi de couper les épisodes. Hein. C'était un choix stratégique pour essayer de durer le plus longtemps possible et sortir du confinement. Donc, les conditions drastiques, c'est déjà pas de public. En revanche, on a tous nos aventuriers, à l'exception de Benoît, qui lui est bloqué en Martinique. On a des gestes barrières extrêmement stricts. On a reconfiguré le plateau de manière à ce qu'on ait plus d'un mètre. On a un mètre deux entre chaque participant. On a évidemment, tout le monde est masqué. On a réorganisé le catering.
Tout le monde est masqué ?
Pas les candidats.
Ah bon ?
Ben non, parce qu'ils ont pour le coup le respect des gestes barrières. Non, nos aventuriers sont non masqués. En revanche, toute l'équipe de production.
D'accord.
Et on est quand même assez nombreux, même si on a réduit fortement, puisque par exemple pour ALP, il n'y aura que 3 personnes, et pour TF1, 3 personnes. On a un kit de maquillage pour chaque aventurier. Ils sont séparés dans leur loge. Enfin voilà, il y a tout un dispositif qui a été validé par une société spécialisée dans la gestion du Covid. Et donc on sait qu'on y va sereinement. Mais dans une config particulière.
Et il y a un invariant dans Koh-Lanta, il y a les larmes, mais il y a les embrassades à la fin. Comment vous allez faire ?
Alors,
vous allez les attacher sur leur siège ?
Non, alors, et l'avantage, c'est que je pense qu'ils seront très expressifs, que ça ne nous empêchera pas d'avoir des cotillons. Comme je le dis, dans la rue, tout le monde ne se touche pas. Pourtant, les gens ont l'air heureux de sortir de ce confinement, donc ça s'exprimera.
Le Parisien de ce matin croit savoir que Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, va faire une apparition ce soir dans l'émission. Est-ce que vous confirmez ?
Il y a un petit magnéto particulier, en effet. Il s'avère que...
Ah, mais il ne sera pas là.
Non, il ne sera pas là.
Ah, dans le papier, on a l'impression qu'il sera là.
Non, non, il ne sera pas là. Il s'avère que, comme vous le savez, ça a été un succès incroyable. Ça a été le programme du confinement,
ouais.
Qui a été suivi avec des pics à 7,6 millions, des scores qui n'avaient jamais été vus en télévision depuis très longtemps sur le programme de flux.
La saison précédente, c'était, ça ne dépassait pas les 5 millions. Donc c'est considérable, cette audience-là.
Non, non, ça a été considérable et exceptionnel. Il s'avère qu'on a eu une saison, on va dire, éditorialement exceptionnelle, avec la rencontre des héros et des anonymes, et le confinement, où ça répondait complètement à sa mission d'écoute conjointe et à l'évasion dont le public avait besoin.
La mission d'écoute conjointe, j'apprends toujours des expressions dans cette émission. Vous restez avec nous, Alexia Laroche-Joubert.
Alexia Laroche-Joubert, qui est notre invitée ce matin, continue à parler divertissement et aventure avec elle dans un court instant sur Europe 1.
Ah
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Koh-Lanta, Fort Boyard sont des émissions phares d'aventure et de divertissement. On les aime, on les adore. On en parle ce matin avec la présidente d'Adventure Line Productions, Alexia Laroche-Joubert.
Alors, tous les aventuriers sauf un seront là ce soir en direct, je le précise, parce que l'émission a été rallongée, les montages ont été faits différemment pour qu'on puisse arriver à cette finale avec le déconfinement. Il ne reste plus que 3 vainqueurs potentiels, 3 finalistes, bande annonce.
Ils sont 3 en compétition, un homme et 2 femmes. 2 battantes, Nawel, la boxeuse.
Quand j'y vais toujours à fond.
Solide et positive.
Avec le soleil, avec le sourire, ça fait bien.
Inès, l'infirmière.
Allez !
Énergique et courageuse.
J'appréhende, mais j'ai hâte qu'elle commence cette épreuve. Je suis finaliste de Koh-Lanta.
Et Claude, un héros de Koh-Lanta. 17 victoires individuelles à son actif. Le plus grand des champions.
Yes !
Il va monter pour la 3e fois sur ses poteaux. Va-t-il remporter l'épreuve ? Puis le titre ? Tout est ouvert. Claude a de sérieux adversaires.
Dans le casting, Alexia Laroche-Joubert, ça tombe quand même bien qu'il y ait une infirmière, non ?
Oui, enfin ça, c'était difficile à prévoir dans la mesure quand même où on a tourné en novembre.
Non mais quand même, ça tombe très très bien.
Oui,
on recevait Léna Moger, la co-rédactrice-chef de 21, elle disait quand même, ça tombe très bien d'avoir fait quelque chose sur la fermeture des frontières.
Plus, d'autant plus qu'elle était au contact direct avec le Covid.
Ah bon ?
Oui, elle a travaillé pendant toute la période du confinement.
C'est pas vrai.
Ouais.
Et justement, vous disiez que ce soir, les candidats vont avoir le temps un peu de parler.
Oui, c'est fantastique parce que TF1 nous a permis de rallonger l'émission. Donc, on va faire plus d'une heure de programme, ce qui est assez rare parce que d'habitude, on a 28 minutes. Et là, on va laisser le temps aux aventuriers de s'exprimer, d'autant plus qu'on a eu des personnalités qui ont été incroyables cette année, que ce soit Sam, Ahmad, l'histoire de Joseph qui a éteint le feu. Ça a été une première dans toute l'histoire de Koh-Lanta.
Racontez. Raconter l'histoire d'un mot.
L'histoire, c'est que Joseph fait le feu au tout début. Il a décidé, comme il risquait d'être éliminé, de l'éteindre. Et en l'occurrence, il a été éliminé. Donc ça a déclenché à la fois des passions et un peu de critiques.
Ouais.
Mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a vraiment tout un panachage d'aventuriers qui ont séduit un public et on va leur permettre de revenir sur leur aventure.
Ahmad, alors là, vous l'avez fait exprès, parce que c'est vous qui faites le casting. Ahmad, il avait peur de l'eau. Franchement, tu fais Koh-Lanta, t'as peur de l'eau, ça fait rire Céline Dacosta, pas possible. Vous savez que vous créez une tension artificiellement en faisant ça.
Et alors, pas du tout. Non, mais je vous le raconte comment ça se passe, les castings. On fait très attention à ça parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Là, en l'occurrence, ce qui était, on va dire, très bizarre, c'est qu'il avait pied. Donc, il a réellement paniqué.
Pardon de rire.
Et Ahmad nous l'a dit, il ne nous a jamais dit qu'il avait une phobie de l'eau. Et quand on a vu, parce qu'on fait des tests nautiques pour s'assurer quand même que les gens savent nager, et il savait nager. Mmh. Donc, on ne peut pas anticiper, en revanche, la prise de panique.
Voilà, vous savez, c'est comme dans Pékin Express, ils prennent que des gens qui ne parlent pas anglais, pour que ce soit rigolo à voir. Ils
pouvaient prendre ça.
Vous n'avez jamais remarqué ?
Non.
I want to go there. C'est ça, c'est le summum de ce qu'il peut faire.
Pardon, mais je suis complètement bilingue, je comprends.
Vous êtes productrice, vous avez Koh-Lanta, on l'a dit, dans votre escarcelle, et l'une des deux autres grosses émissions qui fédèrent la famille, Fort Boyard. Les tournages doivent reprendre dans une dizaine de jours. Où est-ce que vous en êtes, Alexia Laroche-Joubert, avec Fort Boyard ?
Je suis inquiète. Alors, c'est rare que je parle comme ça, hein, parce que je suis plutôt quelqu'un de colérique, mais maintenant je suis inquiète. Fort Boyard, c'est un monument à la fois au sens figuré, au sens littéral, et ce monument est en péril. Je pars normalement dans 8 jours commencer les tournages, et actuellement il n'y a aucune assurance, c'est-à-dire que les assureurs ont décidé de ne pas nous assurer. Donc j'ai des millions en jeu, à tel point que si par hasard je ne peux pas tourner pour cause de Covid, parce que j'ai un ou deux ou trois ou quatre cas de Covid, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ALP peut mettre la clé sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard. Donc je suis vraiment inquiète. On a mobilisé les pouvoirs publics. Comme vous le savez, il y a un fonds qui a été fait. Et félicitations au cinéma de l'avoir obtenu pour le cinéma et pour la fiction. C'est le CNC qui l'a obtenu. Nous, on tape à la porte du gouvernement. Macron s'est exprimé pour dire il faut soutenir l'audiovisuel. On fait partie de l'audiovisuel. Comme je vous le disais, Koh-Lanta a assuré pendant sa période de guerre, comme il l'a lui-même dit, d'être au front et de divertir le public. Je pense aussi à Cyril Hanouna et Cyril Lignac. Voilà, on ne veut pas évidemment empiéter sur le cinéma et on veut juste bénéficier nous aussi d'un fonds de soutien. Fonds de soutien qu'on n'appellera pas automatiquement, mais qui sera là en cas de coup dur. Et c'est très important, il faut savoir que le flux participe à l'économie de l'audiovisuel. Quand le flux, c'est des intermittents qu'on fait travailler quand ils ne peuvent pas aller par exemple sur le cinéma. C'est des cases qui sont occupées par de la création française. Il faut savoir que Fort Boyard, c'est une création française qui s'exporte. C'est aussi la possibilité de ne pas avoir des séries américaines. Parce que si moi, je ne livre pas mes 11 émissions à France Télévisions, qu'est-ce qui va se passer? Des redifs de la série américaine? C'est pas possible. Donc je demande juste, nous, au vu de la valeur patrimoniale de ce programme, au vu de la valeur économique que représente globalement notre secteur d'activité qui est l'audiovisuel, que le gouvernement se mobilise. Alors on a le soutien du cinéma, on a le soutien du CNC, on a le soutien en l'occurrence du président. Voilà, j'ai besoin d'une action urgente, et je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de la profession.
J'ai bien entendu, une fois nous recevions, je ne retrouve plus son prénom,
Troisième œil.
Oui, Pierre-Antoine, Pierre-Antoine Capeton, le patron de Media One et Troisième œil, qui disait avoir des problèmes avec les assurances. Est-ce que tous les assureurs parlent d'une seule voix? Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir un autre, d'aller voir un courtier en assurance?
On est allé voir, moi j'ai eu un entretien avec une société qui s'appelle E.ON, qui est le plus grand courtier mondial, qui est basé en Angleterre, il ne nous assure pas. Personne n'assure. Donc il y a un moment, si les assureurs n'assurent pas, il faut que les pouvoirs publics, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur ce fonds, et félicitations, nous on ne prend rien à personne, on veut juste reconnaître notre importance. On ne peut pas être constamment les parents pauvres, on a alimenté les antennes pour divertir le public, il faut nous reconnaître notre responsabilité aussi dans l'aspect patrimonial, je ne dis pas culturel, même si on appartient au ministère de la Culture, et je sais qu'il milite aussi en cette faveur, mais au moins notre aspect populaire. On fait partie de la culture populaire, on est important au même titre que le cinéma.
D'un mot, pour finir sur une note joyeuse, prochain projet, il paraît que pendant le confinement, c'est vous qui l'avez dit, vous avez imaginé un programme génial.
Ouais, 40 jours après le confinement. En fin de compte, c'est un dating. Moi, je me suis aperçue, la petite histoire, j'ai rencontré un homme fantastique pendant le confinement.
C'est pas vrai.
Et j'en ai fait un programme, comme souvent ce qui m'arrive dans ma vie. Et l'idée, c'est qu'au final, ne pas s'embrasser tout de suite, c'est merveilleux. Et se parler à travers un écran, ça permet d'aller dans la profondeur des sentiments. Donc, on a écrit un programme là-dessus.
Et vous venez de nous raconter que vous avez fait une rencontre en plus.
Oui.
Je vous félicite. Merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert. Pudiquement, je m'arrête là. La finale de Koh-Lanta, c'est en direct ce soir sur TF1. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h, Place à la Culture, avec l'auteur Sophie Fontanelle qui vient de sortir un recueil de fables. Le thème, c'est pas pour vous Alexia, c'est nos travers et impasses de nos vies sexuelles, mais le tout en vers. Et puis il y aura son portrait évidemment inattendu dressé par Hélène Manarino. Dans les indispensables, Laurent Mariotte va nous faire des idées de recettes, mais ce sont toutes des titres de films, de la musique. Le festival Wheel of Green qui fête ses 10 ans d'une manière très particulière. Angèle Châtelier va tout nous dire dans un instant, le journal de la culture, juste après ça.